20 часов в Париже.
В Париже, он идет термометр
с Тадасом.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse et dans toute sa diversité. Ce soir avec Natalia Olivares,
Buenos días.
De la rédaction en espagnol concernant les révélations qui font froid dans le dos en Colombie. Il s'agit d'exactions commises par des militaires et ce sera donc dans la seconde partie de Accent du Monde. Alireza Manavzadeh, la rédaction persane, bonsoir à vous. Avec la République islamique d'Iran, qui n'a pas pris parti dans la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine. On en parlera tout à l'heure. Et pour la rédaction en anglais, David Roé.
Et bonsoir.
En anglais, ce serait bien aussi.
Oui.
Good evening. Pour les répercussions, économiques de la guerre en Ukraine, à savoir une hausse des prix, c'est-à-dire de l'inflation sur plusieurs produits de première nécessité. Mais commençons par revenir sur la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française. En attendant qu'il nomme un Premier ministre, au-delà un nouveau gouvernement, intéressons-nous à ce qui s'est passé juste après l'annonce des résultats, le donnant vainqueur du scrutin. David Roé, il s'est rendu sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, pour déclarer devant ses partisans que les 5 prochaines années seraient différentes des 5 années qui viennent de s'écouler.
Mais on peut difficilement parler d'un discours de victoire parce qu'elle était, et lui, il était bien conscient. Malgré le fait qu'elle a gagné avec 58% contre 41% pour Marine Le Pen, on tient compte du taux d'abstention. Le tableau est bien différent. Excusez-moi. Le taux d'abstention était de 28%, le plus élevé pour un scrutin de deuxième tour en France depuis 1969. Cela signifiait que Macron n'a été élu que par 38% des électeurs inscrits contre 27% pour Mme Le Pen.
Alors rappelez-nous comment Emmanuel Macron a réagi à l'annonce de ses résultats, que ce soit en prenant en compte l'abstention ou pas.
Oui, mais Macron il a répondu qu'il fallait trouver une réponse à la colère et au désaccord qui ont conduit beaucoup de Français à voter pour l'extrême droite. Elle a déclaré que ce serait l'un des thèmes majeurs de son prochain mandat. Même les partisans de Macron se sont montrés très prudents. Voici deux personnes qui étaient ressemblées à le Tour d'Eiffel pour les résultats.
La première, c'est une jeune femme.
C'était une jeune femme, clairement une partisan de Macron, qui a dit que même si elle était très heureuse de sa victoire, elle a encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne l'environnement.
On l'écoute.
I'm so happy. I'm relieved. I'm relieved a lot. I was really scared about Le Pen and about the extreme. And so now it's just I'm full of happiness and I can't wait to see.
Donc là, elle est en train de dire ce que vous nous expliquiez auparavant avec un bel accent français. Autre témoignage, c'est un homme d'une cinquantaine d'années.
Hein. Oui, justement, c'est un homme de cinquantaine d'années. Il dit qu'il n'est pas un grand partisan de Macron, mais il a voté pour lui afin d'écarter l'extrême droite.
On l'écoute.
I'm not completely pro Macron, but I'm really against Le Pen. And there was at some stage a real risk that Le Pen could win, and I was a bit scared. So really good.
Donc il explique effectivement qu'il voulait écarter l'extrême droite, mais également.
Mais
qu'il est déçu par les 5 dernières années.
Il était déçu par les dernières 5 années et qu'il était mal à l'aise de voter pour Macron.
Alors, ça fait deux fois cette semaine qu'Emmanuel Macron se rend en province. Tout à l'heure, il était à Barbazan-Débat, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Hein.
Donc, Emmanuel Macron a dit son souhait de retour au calme et à la concorde après la bataille présidentielle. Évoquant, et je cite, un paquet à l'été pour les premières mesures sur le pouvoir d'achat et sur l'école et la santé. Sur la retraite, il a aussi réaffirmé vouloir augmenter les minimums à 1100 euros net, défendant à nouveau son projet très controversé de report de l'âge de la retraite à 64 et 65 ans, estimant, et encore je cite, « la seule chose qu'on peut faire, c'est travailler davantage en prenant compte de la pénibilité ». Alors chaque chose en son temps, En son temps, il a répondu, interrogé par la presse pour savoir s'il avait arrêté le nom de son prochain premier ministre.
Et est-ce qu'il y aura un état de grâce?
Non, absolument pas. Il n'y aura pas une période de grâce pour M. Macron, surtout pour la gauche. Comme nous avons entendu, nombreux sont eux qui n'ont voté pour lui que contre cœur pour empêcher l'extrême droite de gagner. En juin, aux élections parlementaires, il se peut que les électeurs qui ont voté pour lui lors de la présidentielle vont le sanctionner alors que la menace d'une présidence d'extrême droite s'est éloignée. Pour l'opposition, en plus, Mme Le Pen a déclaré qu'elle visait une forte présence à l'Assemblée, tandis que Jean-Luc Mélenchon, de la gauche dure, a déclaré qu'elle voulait être Premier ministre. Si cela se produit, cela contraindra Macron à une cohabitation maladroite et sujet à l'impasse.
Donc ça, on verra bien. Ce sera mi-juin, donc pour ces élections à l'Assemblée nationale. Alireza, revenons sur ce qui s'est passé lors des deux derniers tours. Des électeurs ont voté, pas vraiment pour Emmanuel Macron, mais contre Marine Le Pen. On entendait le témoignage recueilli par David Roy tout à l'heure. Moins qu'il y a 5 ans, il y avait eu une sorte de tout sauf Le Pen à l'époque. Cette fois, il n'y a pas eu de front républicain. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Emmanuel Macron.
Je crois qu'Emmanuel Macron voulait dire qu'il n'était pas redevable à un front républicain, car il a ensuite ajouté « Je veux convaincre tout le monde, mais je veux le faire avec une méthode nouvelle ». Il voulait dire par là que pour être réélu, il n'avait pas besoin d'un front républicain et qu'il espérait par contre faire adhérer la majorité des Français à son projet. Alors que le 24 avril dernier, comme d'ailleurs en 2017, son avance significative sur Marine Le Pen n'a été possible que grâce à la mobilisation d'un front républicain. Il en avait d'ailleurs pris conscience. Écoutons ce qu'il a dit le 7 mai 2017, juste après son élection.
Mais je pense qu'en 2017, soyons clairs, il n'y a pas eu de front républicain.
Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République.
S'il essaye de nier cette vérité, c'est probablement parce que pendant son quinquennat, ses détracteurs la lui rappelaient incessamment.
Alors on parle de front républicain, mais de quoi retourne-t-il précisément? Quelle est la définition exacte de ce concept politique?
En fait, le front républicain est un accord tacite entre les partis ou tout simplement entre les citoyens de tous bords pour faire barrage à une force politique qui est censée menacer les fondements de la République. Ce front se constitue sciemment par les citoyens au deuxième tour des élections, parfois même sans la consigne de vote des candidats éliminés, comme cela a été le cas de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon dimanche 24 avril. Il n'avait pas donné de consigne de vote, il avait simplement demandé à ses électeurs de ne pas voter Marine Le Pen. Pourtant, dimanche dernier, l'électorat de Mélenchon a finalement penché vers Emmanuel Macron. 42% ont voté Macron et aux alentours de 17%, la candidate de l'extrême droite. Le reste a choisi le vote nul, blanc ou l'abstention.
Alors cette union temporaire d'électeurs de tous bords politiques pour voter contre l'extrême droite, ça ne date pas d'hier. Il y a eu des antécédents dans l'histoire politique française.
En fait, le terme « front républicain » apparaît dans la vie politique française pour la première fois en 1955 sous la plume de Jean-Jacques Servan-Schreiber, homme politique, journaliste et fondateur de l'Express. La vague montante du poujadisme, extrême droite de l'époque, constituait un péril mortel pour la République. Par ce terme, le fondateur de l'Express entendait défendre une coalition de 4 forces de centre-gauche qui se présentait aux élections législatives de janvier 1956. Les dernières législatives, d'ailleurs, de la Quatrième République. L'échec de cette coalition conduira à l'avènement de la Cinquième République. Ce terme a réapparu pendant la présidentielle de 2002 lorsque Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, a été qualifié pour le second tour. Le constat est que depuis lors, l'écart se resserre entre la famille Le Pen et le président élu.
Alors, poursuivons ce cours d'histoire politique, professeur Manavzadeh. Est-ce qu'on peut remonter plus loin dans la constitution de ce Front républicain ?
Bien sûr, mais pas sous cette appellation. En 1885, sous la Troisième République, le désistement au profit des mieux placés s'appellera la discipline républicaine. Le péril, à cette époque, venait des monarchistes et bonapartistes qui avaient obtenu au premier tour des législatives une centaine de sièges. La République est donc le soldat rien qu'il faut toujours sauver.
Revenons à ce qui se passe en 2022 avec vous, Nathalie Olivares. Au-delà des résultats de cette présidentielle, à la rédaction Amérique latine, vous vous êtes intéressée à la place de la région, donc l'Amérique latine, dans l'action du président Emmanuel Macron.
Et pour cause, Philippe, il faut savoir que la plus grande frontière de la France, qui sépare un autre pays, se trouve en Amérique latine.
Oui, c'est la frontière brésilienne.
Voilà, c'est ça, 7304 kilomètres bien exactement. Et pourtant, la seule référence à la région qu'on a trouvée, on a vraiment bien scruté à la rédaction Amérique latine, pendant la campagne, eh bien, ça a eu lieu pendant le débat présidentiel avant le deuxième tour des élections. Et c'était à propos du Brésil, c'était donc le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux candidats.
D'abord, il y a toute une série de politiques de l'Union européenne avec lesquelles je suis en désaccord. Je suis en désaccord avec la multiplication des accords de libre-échange où on vend des voitures allemandes en sacrifiant des éleveurs à la concurrence des poulets du Brésil ou du bœuf du Canada. Je suis en désaccord avec la politique. Je suis en désaccord avec la politique des travailleurs détachés.
Voilà, donc les poulets brésiliens, donc des déclarations sorties de nulle part, des propos difficiles à comprendre dans cette confusion. Et ça parle très bien des relations entre la France et l'Amérique latine, ou plutôt l'absence de relations, contrairement aux prédécesseurs d'Emmanuel Macron, qui, eux, ont maintenu des relations diplomatiques très proches avec le continent, en fait, avec l'Amérique latine. Et cela, ça faisait partie plutôt d'une certaine façon de la volonté de faire un contrepoids avec l'influence très forte des États-Unis en Amérique latine. Et on a eu à la rédaction Amérique latine quelqu'un qui nous a très bien parlé de cette absence de l'Amérique latine dans la campagne et surtout dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était Pierre Lebré, on l'écoute.
Con Emmanuel Macron hay una distancia, ¿no? Porque si recordamos la presidencia de Hollande, ha sido un presidente muy activo, con más de 10 viajes en la región, con una reapertura de relaciones.
Que dit Pierre Lebré et d'abord qui est-il précisément?
Alors, Pierre Lebré, c'est un expert de l'Amérique latine et des Caraïbes. Il est français, mais il parle en espagnol puisque nous on l'a interviewé en espagnol et il a écrit un livre d'ailleurs qui parle très bien. Ça s'appelle Emmanuel Macron, Amérique latine, le grand gâchis. C'est dire. Donc là, dans cette petite interview. Il dit que François Hollande a été très actif avec plus de 10 voyages sur le continent, un rapprochement diplomatique avec Cuba. Jacques Chirac aussi a eu sa visite officielle en 2006, Mitterrand, et un rapprochement via une forte coopération culturelle dans les années Mitterrand, entre autres, et le voyage historique de Charles de Gaulle. Il faut se souvenir que Charles de Gaulle avait fait un périple de 3 semaines en 1964. Il a visité une dizaine de pays, 32 000 kilomètres en tout. C'était une autre époque, Philippe, mais ça contraste assez bien avec la seule et unique visite d'Emmanuel Macron en Argentine et en 5 ans de mandat pour un sommet du G20.
Ouais, donc une visite de circonstance, ce qui vous fait dire que l'Amérique latine n'a été finalement à aucun moment dans l'agenda diplomatique français.
Pierre Lebré va plus loin, il affirme que Emmanuel Macron a marqué un avant et un après, une rupture en quelque sorte, il y a beaucoup de raisons à cela, la pandémie, la guerre en Ukraine, les urgences à traiter plus tôt sur le territoire européen, mais le rôle historique de la France était, comme on le disait tout à l'heure, un contrepoids, une voix diplomatique très écoutée et suivie en Amérique latine. Philippines. Pierre Lebré regrette que ce président n'ait pas condamné, par exemple, les violences contre les civils pendant les manifestations au Chili, aussi les manifestations en Colombie, qu'il n'ait pas condamné le coup d'État en Bolivie ou encore qu'il n'y ait pas eu un soutien au Brésil lors des terribles incendies en Amazonie, enfin au Brésil, mais surtout toute la région, en dehors du G7 où Emmanuel Macron avait proposé une aide des pays les plus riches pour ce dossier, mais une coopération plutôt axée France-Amérique latine aurait été bien reçue. Il y a eu cependant une intervention remarquée par Emmanuel Macron en ce qui concerne un pays en Amérique latine, le Venezuela. Et là, Pierre Lebré dit qu'il y a eu une erreur.
D'ailleurs, reconnaître un président interino autoproclamé est une erreur. C'est une erreur. Je crois que la présidence française s'est équivoquée au respect, que la solution est la diplomatique.
Alors, quelle est cette erreur dont parle Pierre Lebré?
Alors, il parle de cette erreur qui a été de reconnaître officiellement le président officiel du Venezuela par intérim, Juan Guaido. Il a été reçu à l'Élysée alors qu'il s'était autoprogrammé. C'est une erreur selon Pierre Lebré en termes de diplomatie. Et pour le coup, il a suivi la voie d'un président comme Donald Trump, le président des États-Unis, ce qui lui a valu de fortes critiques en Amérique latine et une perte de crédibilité, alors qu'on aurait pu avoir, selon Pierre Lebré, des négociations diplomatiques avec des pays tiers. Si on regarde bien de près, Philippe, le quinquennat, on se rend compte que les échanges ou les prises de position reposent surtout sur des réactions dans l'urgence face à un président brésilien, par exemple, insultant. On ne va pas revenir sur ce dossier des insultes et des échanges assez musclés entre les deux présidents, ou par exemple une prise de position sur le Venezuela. Et donc cela ne répond pas vraiment à une réelle stratégie diplomatique.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur les leçons à tirer de cette élection présidentielle en France. D'autres enseignements seront écoutés dans Dimanche Politique, juste après le journal de 20h, après-demain. Donc, pour l'instant, c'est Accent du Monde que vous écoutez sur RFI.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
La guerre en Ukraine à présent et l'Europe qui s'est tournée vers la guerre économique. Il en a bien évidemment été largement question sur le site en anglais de Radio France Internationale, David Roé.
Donc, effectivement, alors ce qui s'est passé, c'est qu'en début de la semaine, la société russe Gazprom a annoncé l'arrêt d'approvisionnement en gaz de la Pologne et de la Bulgarie, des pays très dépendants sur la Russie, après n'avoir pas reçu le paiement en rouble de la part des deux membres de l'Europe. Selon des chiffres qui ont été publiés hier, c'est-à-dire jeudi, la France et l'ensemble de l'Union européenne commencent à ressentir les retombées économiques de la guerre. Notamment, il y a trois choses en particulier. Le prix des alimentaires sont en hausse, l'huile comestible disparaît des supermarchés et le prix de l'énergie sont également en hausse.
Alors, c'est là la conséquence de cette guerre en Ukraine, mais pas que. Hein.
Pas que ça, non. En fait, c'est principalement l'Ukraine, mais c'est autre chose. Nous avons parlé avec Vassily Astrov, économiste principal de l'Institut viennois d'études économiques internationales. Il nous a expliqué ce qui se passe.
We already see rising food prices, and this is, by the way, not only because of Ukraine. Of course, Ukraine is a very important producer and exporter, especially of grain.
Que vous explique-t-il, ce Vassily Astrov?
Donc, il dit simplement que c'est pas que l'Ukraine qui exporte les graines. Les graines, c'est aussi la Russie. Donc, avec le blocage économique sur la Russie, il y a rien qui sort. Il y a des problèmes d'approvisionnement ici aussi. Avec les produits des Russes.
Et autre chose? Non?
Non.
L'impact se fait déjà sentir, en tout cas.
Ah, excusez-moi.
Ça, c'est clair.
Oui. Et hier, la Banque centrale française a annoncé que la croissance économique était tombée à zéro au premier trimestre de cette année. La principale raison, en fait, c'est que les ménages ont réduit leur consommation. Et c'est largement dû à la hausse d'inflation due à la guerre en Ukraine. De point de vue plus général, cette situation a un impact majeur sur l'Europe. Le bloc européen avait déjà été durement touché par les problèmes liés à la pandémie de Covid et ceux-ci ont été aggravés par l'Ukraine.
Alors, au bout du compte, est-ce qu'on peut déjà parler de récession économique ?
Mais en fait, non. Malgré tout, M. Astrov affirme qu'il ne prévoit pas une récession économique en Europe pour l'instant.
I don't expect that this will push EU economies into recession, barring a scenario when there is a full-fledged import embargo.
Quelles sont ces analyses, son commentaire?
Ils disent qu'en fait, il n'y aura pas de récession en France, pas en France et en Europe en général, sauf s'il y a une seule condition. Et là, c'est que s'il y avait un blocus sur l'énergie russe. Si les choses restent comme elles sont, il n'y aura pas de récession, mais un ralentissement, ils disent. Bien sûr que si les choses restent comme elles sont. Si toutefois il y a un embargo général et généralisé sur l'énergie russe, et jusqu'à présent il n'y a pas d'accord en Europe sur ce point, tout pourrait changer. Nous devrons attendre jusqu'à lundi prochain, date d'une réunion d'urgence des ministères des Européens de l'énergie. Eux, ils peuvent demander à la Commission européenne d'élaborer une réponse à l'échelle de l'Europe aux menaces que l'Europe, la Russie fait passer sur l'énergie.
David Roy, chef de la rédaction en anglais de Radio France Internationale. Et toujours à propos de cette guerre en Ukraine, la République islamique d'Iran, qui n'a pas pris parti dans ce conflit. Pourtant, au lendemain de l'invasion russe, le guide suprême en a imputé la responsabilité aux États-Unis et à l'Occident. Alireza Manavzadeh, la rédaction persane, comment est-ce que vous analysez cela ?
C'est une position ambiguë. Mais il faut bien admettre que d'autres pays de la région, y compris certains alliés des États-Unis, sont restés en dehors de ce conflit. Pourtant, ils ont essayé de partager d'une façon ou d'une autre la peine des Ukrainiens. Ce n'est pas le cas du gouvernement iranien. En fait, la position de la République islamique obéit à une logique qui est celle d'un rapprochement stratégique avec la Russie de Poutine. Elle s'explique avant tout par les liens d'amitié et de coopération que les dirigeants iraniens ont tissés pendant 2 décennies avec la Russie. Quant aux Iraniens, il est évident qu'ils sont en désaccord avec leurs dirigeants et condamnent majoritairement cette invasion. Cette évidence n'a pas échappé à l'ambassadeur d'Ukraine à Téhéran qui, lors d'un récent entretien avec un journal iranien, l'a fait remarquer aux dirigeants de la République islamique. Il a surtout déploré le manque de sympathie du régime pour le peuple ukrainien.
Alors comment est-ce que ce qu'a dit ce diplomate ukrainien a-t-il été accueilli par les officiels iraniens, par le gouvernement ?
Disons d'abord que l'entretien avait eu lieu au 40e jour de l'invasion russe. Mais il a été publié 11 jours après, le 16 avril. Il a dit « Dans cette guerre qui se déroule depuis 40 jours, la République islamique s'est mise aux côtés de la Russie. Supposons que les dirigeants iraniens restent sur cette position et dans un an, leur relation avec la Russie se dégrade. Dans ce cas, comment oserait-il demander à l'Ukraine d'exporter, par exemple, des denrées alimentaires en Iran ? Les dirigeants ukrainiens leur diraient probablement « Où étiez-vous il y a un an lorsque nous avions besoin de votre aide humanitaire ?» Je vous fais écouter un extrait de cet entretien.
Дійсно, відчуваємо підтримку з боку простих іранців. Навіть коли я їду на машині під прапором, люди зупиняються, сигналять, кажуть, що...
Алі-Реза?
Іді, je reprends la traduction faite par le journal qui l'a interrogé. Il dit, contrairement à tous les pays de l'Asie centrale et du Moyen-Orient, l'Iran n'a apporté aucune aide à l'Ukraine, alors que le peuple iranien, dans son ensemble, la soutient. Sur le manque de sympathie du gouvernement iranien pour les Ukrainiens. Il a même envoyé 2 lettres personnelles aux autorités de ce pays, une au président et une autre au ministre des Affaires étrangères, mais il n'a reçu aucune réponse.
Cela dit, cela a suscité des réactions. Quelles sont-elles ?
En fait, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a réagi 2 jours après avec une certaine arrogance. Lors d'une conférence de presse, il a renvoyé l'ambassadeur à un tweet du ministre ukrainien des Affaires étrangères dans lequel il avait tout simplement écrit que l'Iran était contre la guerre et souhaitait une solution pacifique. Pourtant, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a réitéré la position de son gouvernement qui consiste à dire que la responsabilité de cette guerre incombe aux États-Unis et à l'Occident qui veulent faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Alors que dans son entretien avec le journal iranien, l'ambassadeur d'Ukraine avait rejeté point par point cette argumentation et avait répondu: tous les dirigeants des pays occidentaux, c'est l'ambassadeur qui le dit, tous les pays, dirigeants des pays occidentaux, y compris des États-Unis, ont indiqué qu'ils ne voulaient pas que l'Ukraine intègre l'OTAN. Quant aux Iraniens, ils approuvent pour la plupart les propos de l'ambassadeur d'Ukraine, surtout à travers les réseaux sociaux.
Alireza Malavzadeh de la rédaction persane de RFI. Intéressons-nous maintenant à ce qui fait la une en Colombie, ce qui a suscité de l'émotion et même de l'effroi avec les aveux glaçants de militaires qui ont admis avoir tué de sang-froid des jeunes innocents. Nathalie Olivares, il s'agit de ce qui s'appelle le scandale des faux positifs.
Des faux positifs, c'est exactement ça. Alors, on va écouter les aveux très difficiles à écouter qui ont eu lieu lors d'une audience publique dans la ville d'Ocaña, dans le département du nord de Santander, à la frontière avec le Venezuela. On écoute.
Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá. Je sais que ustedes no nos van a perdonar.
Qui parle? Que dit-il?
Alors, il s'agit de Néstor Guillermo Gutiérrez, un officier qui explique face à une cinquantaine de personnes assises en face de lui, des proches des victimes: j'ai exécuté, j'ai assassiné des personnes innocentes et je le dis face à vous. Je sais que vous ne me pardonnerez jamais, mais le but c'est d'obtenir ce que vous demandez. C'est-à-dire que cela ne se reproduise plus.
Pour ce scandale, cette audience s'est déroulée sous la juridiction spéciale après les accords de paix de 2016 entre le gouvernement et les FARC. De quoi sont accusés ces militaires à la retraite dont Guillermo Gutiérrez fait partie?
Voilà, dans ce cas précis, ils sont accusés d'avoir tué 120 civils dans le conflit contre la guérilla des FARC, car il fallait présenter des résultats dans les années 2000 pour booster les carrières ou obtenir une récompense, ou alors à cause de cette pression des supérieurs hiérarchiques. En échange, les militaires recevaient des médailles. Ces jeunes civils, donc les victimes, n'étaient pas des guérilleros ou des criminels, mais des paysans ou des indigènes. Ils allaient de 25 à 35 ans pour tout et pour tout. Ils sont pourtant été présentés comme des ennemis morts au combat. Ce sont, comme on disait, les falso positivos, les faux positifs. On écoute encore ces déclarations.
Llegaban acá a la ciudad de Ocaña y unos muchachos que se veían
Quel détail donne-t-il?
Alors, il explique le modus operandi. Ils arrivaient ici, dans la ville d'Ocaña. C'était des gens bien, ce n'étaient pas des délinquants. Je me souviens tellement de Luis Devia Gomez, il le cite donc. Ils l'ont assassiné, ils lui ont mis une arme entre les mains et ils ont fait un rapport comme quoi il y avait eu un combat. Le jour suivant, l'info est tombée. Un guérillero, un paramilitaire, un criminel ou un bandit a été tué lors d'une attaque.
Écoutons maintenant la mère d'une des victimes, Jacqueline Castillo, présente lors de cette audience.
La lucha que nosotros hemos liderado era uno de los objetivos, que se limpiara el nombre de nuestros familiares, así
que dit-elle.
Como lo han reconocido.
Que cette audience est une bonne chose, c'est parfait, car nous avons cessé de demander de rétablir la vérité et de blanchir le nom de nos familles, ce qui est en cours. Mais à l'audience, il n'y avait pas les commandants des brigades. Parmi ces 11 militaires, la majorité répondait à des ordres. Les commandants donnaient ces ordres pour que ces crimes puissent être commis, et nous demandions qu'ils soient entendus eux aussi, car il y a encore beaucoup d'assassinats non résolus en Colombie.
Et elle demande donc justice. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale.